Voilà un type, Mozart. J'aurais bien aimé le connaître. Pute.
Et moi, c'est pas compliqué. Avant de t'en rencontrer, c'était mon seul pote.
Je savais pas que l'amour, c'était une maladie. En tout cas, vous vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner.
19h, 20h.
Heureusement que j'ai des nerfs, sinon... Vous imaginez, si je suis sur scène sans nerfs du tout, alors vous direz, oh, qu'elle est moche.
Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle.
Nos parrains, et bien évidemment ceux que vous aimez, Carole Beffa, Marc Lambron, Samuel Blumenfeld, Josiane Savigno tout à l'heure, et votre serviteur pour parler aujourd'hui d'un géant de la musique, peut-être celui qui a révolutionné donc à la fin du 19e siècle, à partir des années 1880, la musique française et la musique dans le monde. Il y a un décalage avec celui dont nous avons parlé la semaine dernière, à savoir Maurice Ravel. Je donne les dates. Ravel, c'est 75-1937. Évidemment, Debussy, c'est avant, puisqu'il est né en 1862 à Saint-Germain-en-Laye, et qu'il est mort le 25 mars 1918, donc enterré au cimetière de Passy, comme ce grand peintre que j'adore, qui s'appelle Édouard Manet. Il a passé 10 ans au Conservatoire National de Paris. Il était bon, mais dissipé. C'était pas le plus brillant de sa génération, sauf qu'il est devenu le plus génial de sa génération. Et nous allons en prendre comme preuve, avant que mes camarades n'interviennent, ce morceau archi-célèbre qui s'appelle « Le clair de lune » qui a été utilisé dans des dizaines de films, et je mesure mes mots en présence de Samuel Blumenfeld, des films archi-célèbres que l'on connaît totalement inattendus. Le nombre de films japonais, asiatiques, c'est invraisemblable, mais on l'a par exemple dans un Walt Disney qui n'a pas été utilisé, dans « L'étoffe des héros » de Philippe Kaufman, dans « Sept ans au Tibet » de Jean-Jacques Hano, dans « Man on Fire » de Tony Scott, qui n'est quand même pas le plus grand poète du monde, et surtout dans plusieurs versions de Ocean Eleven. Qui pouvait croire que Debussy était entre Brad Pitt et George Clooney? Nous avons décidé évidemment de vous laisser vous imprégner de ce clair de lune que nous allons continuer à écouter, simplement pour vous dire que les travaux de Debussy ont commencé en 1890 autour de ces mouvements multiples pour se terminer définitivement en 1905. Voilà, nous étions en 2004 avec Steven Soderbergh, grand metteur en scène, évidemment, qui a utilisé deux fois ce clair de lune. Nous allons évidemment expliquer tout ça avec Samuel Blumenfeld, que je salue. Le mot d'entrée est toujours évidemment réservé à celui qui connaît mieux que nous tous la musique, puisqu'il est musicien et musicologue, Carol Beffa. Tout à l'heure, je disais une antériorité biographique avec Ravel, les deux plus grands musiciens français, si l'on peut dire, puisque c'est en gros tout 20 ans avant. Mais comment est-ce que Boukourechliev a raison, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est vraiment avec Debussy, c'est-à-dire la mer, Péléas et Mélisande, que là ou l'après-midi d'un faune, que tout a changé.
Alors, si je me souviens bien, Boukourechliev parle de révolution subtile. Ce qu'il veut dire par là, c'est que on a eu souvent tendance à se considérer que les deux compositeurs qui avaient révolutionné le XXe siècle, c'était les deux frères ennemis, Schoenberg et Stravinsky. L'idée de Boukourechliev, c'est que cette révolution a lieu non pas dans les années 10, dans les années 20 du XXe siècle, mais plutôt une vingtaine d'années auparavant, et avec Debussy. Alors Debussy ne s'est pas trouvé tout de suite. Il a d'abord été un partisan des brumes celtiques à la Wagner, dont il a repris certaines harmonies parfois assez vénéneuses. Il a cherché à faire du Massenet, on l'oublie parfois, dans un lyrisme éclatant. Il a été séduit par Chabrier, il s'est intéressé à la musique de Grieg et à d'autres, et il s'est trouvé lui-même, un peu plus tard qu'avec ce clair de lune de la suite Bergamasque, plutôt on va dire autour de...
Le début du XXe.
Le début du XXe siècle, et même un tout petit peu avant. Si vous prenez Prélude à l'après-midi d'un faune, c'est déjà évidemment ce Debussy magique, qui est fait d'évocations, de demi-teintes, de suggestions, beaucoup plus que d'affirmations péremptoires.
Voilà, en fait, d'une certaine manière, je vais faire du Durand pour faire plus simple, ce qui ne veut pas dire qu'il ne fallait pas faire raffiner comme vous. Au fond, il y a quelque chose chez Debussy qui ressemble à la sortie du vacarme dans le domaine de la musique. Si l'on considère que le 19e siècle, allemand, français, avec Berlioz, ça a été d'abord et avant tout le théâtre, l'expressionnisme absolu, après le romantisme. Fin du vacarme.
Et anti-wagnérienne, c'est quand même très important.
Voilà. Alors
le nationalisme musical de Debussy. Hein.
Avant de revenir sur l'utilisation pléthorique de la musique de Debussy par le cinéma mondial, voici ces quelques mots de Daniel Barenboim à propos justement du changement, du bouleversement de Debussy.
Claude Debussy described himself as a French musician, musicien français.
Ce qui est typiquement français, c'est précisément la combinaison d'une capacité à faire preuve de fantaisie, tout en s'émerveillant pour toutes sortes de choses dans la vie, avec un esprit clairement mathématique. Et c'est cet accord entre ces deux éléments, apparemment sans connexion, qui fait que la musique française est si typiquement française.
Voilà pour ces quelques mots de Daniel Barenboim. Alors revenons avec vous, bonjour Samuel.
Bonjour Guillaume.
Sur cette utilisation pléthorique, je citais les meilleurs auteurs en scène tout à l'heure. J'ai pas donné l'essentiel de ceux qui l'ont utilisé en Asie, car visiblement, il y a une sorte de tropisme Debussy chez les cinéastes asiatiques qui l'ont utilisé à de multiples reprises. Mais là, il s'agit de Soderbergh, et pour deux films qui, évidemment, ont connu un succès mondial, à savoir Ocean Eleven et Ocean Eleven 13.
Absolument.
J'ai failli ne pas y arriver.
Ce qui, en fait, je dirais ce qui m'interpelle un petit peu ici, c'est la manière dont le romantisme de Claude Debussy peut entrer en collision avec le romantisme de Steven Soderbergh. Car Steven Soderbergh est, j'insiste là-dessus, un grand cinéaste romantique. Alors,
il y a le casse romantique.
Absolument. Et nous allons avoir, attention Guillaume, nous allons y arriver à un authentique casse romantique. Mais le romantique, en quoi consiste le romantisme de Steven Soderbergh? En fait, depuis Sexe, mensonge et vidéo, et puis plus tard, Solaris, Hors d'atteinte, le romantisme de ce très grand cinéaste américain, c'est un homme et une femme qui se croisent et ne se reverront plus jamais. Et donc, là, dans le cas précis de Ocean's Eleven, donc la première utilisation chez Soderbergh, de Clair de Lune, et puis dans le cadre d'un film où ça paraît surprenant quand même, parce que nous parlons d'une super production hollywoodienne, d'un film de casse. Et donc, comment ce Clair de Lune est-il utilisé dans une longue séquence de près de 4 minutes? D'abord, Debussy met en musique le dernier regard de Julia Roberts pour George Clooney avant son incarcération. Ensuite, nous redécouvrons cette ville de Las Vegas, qui est un chantier perpétuel, et que nous savons, nous spectateurs, que nous la voyons pour la dernière fois. Parce que tout simplement, elle sera détruite après ce tournage pour laisser place à une nouvelle Las Vegas. Et ensuite, cette musique, ce clair de lune, encadre ce long panoramique où nous redécouvrons pour une dernière fois les visages de Matt Damon, Brad Pitt, Casey Affleck, Elliot Gould, Don Cheadle, l'un des plus beaux castes de l'histoire du cinéma, et aussi, en l'occurrence ici, la dernière fois que nous aurons vu autant de stars sur un grand écran.
L'occasion justement de développer ce clair de lune avec Marc Lambron, car nous allons écouter maintenant de la musique, plusieurs versions, car Debussy a irrigué le jazz, aussi les Baxter, clair de lune, qui a réorchestré des classiques avec un synthétiseur Moog. Nous sommes en 1968, c'est Marc qui nous en parle et il parlera après de New Back, clair de lune, qui est l'extrait de l'album New Back Rock, dans lequel le guitariste de jazz Steve Kovalchuk a repris des grands morceaux de musique classique, et commençons par les Baxter. Voici donc, comme promis, le guitariste de jazz Steve Kovalchuk. Moog du clair de lune était 1968, la version Moog, et celle de Kovalchuk donc date marque de 2012, mais quelle postérité.
Alors on a oublié de dire que le clair de lune c'est le troisième mouvement de la suite Bergamasque qui date de 1890, le titre probablement emprunté à Verlaine. Il y a un film aussi qu'on n'a pas cité, c'est Fantasia de Walt Disney. Il y a une des séquences en 1941 de Fantasia, mais qui a été omise dans le film et qu'on retrouve aujourd'hui sur le DVD. Alors là, nous avons affaire à un énergumène, Les Baxter, né en 1922, mort en 1994, qui est une sorte de caméléon. Il a été chanteur, arrangeur pour Nat King Cole, pionnier de l'easy listening tiki, c'est-à-dire de la musique océanienne frelatée. Il a fait de la salsa, mais très blanchie. Il a produit les Baladies, ce qui était le premier groupe de David Crosby. Il a écrit des musiques pour parcs d'attractions, mais pour des films.
Bref, il avait des problèmes de toiture.
Et pas n'importe lesquels. Monica de Bergman. Tous les films de Roger Corman, un film d'horreur adapté d'Edgar Poe. Et également les Peplums de Mario Bava. Alors, c'est un caméléon. Vous savez qu'en 1968, il y a un énorme succès qui est Switch on Back. C'est l'album de Walter Carlos, qui va devenir Wendy Carlos, et qui utilise le Moog synthétiseur, sur lequel notre ami Laurent Deville a écrit un traité définitif. Et l'année suivante, le caméléon, le suiviste Les Baxter, il fait Moog Rock, lui. Donc en 69. Et il reprend Bach, Grieg, Borodine, Chopin. Donc vous avez entendu, c'est à la fois gothique et spatial, tout à fait dans l'esprit de l'époque, c'est très Apollo 11. C'est un peu musique d'ascenseur. Ça évoquerait chez nous les robes de courage ou le drugstore Saint-Germain. Toute une époque.
Voilà. Et puis ce guitariste, donc en 2012.
Alors, Kovalchuk, il est né en 1978, donc beaucoup plus jeune. Bien, il est professeur de musique à l'Université du Colorado. Et il enseigne la théorie musicale, le jazz, la composition. Si vous avez sur le site de l'université, vous trouverez son adresse mail. Donc vous pouvez le louanger ou vous plaindre. Alors il joue aussi bien avec l'Orchestre symphonique du Colorado qu'avec un trio jazz. Et en 2012, il y a donc ce New Back Rock. Dialogue entre 3 et 8 guitares électriques. Il y a, selon le c'est plus ou moins touffu. Et donc Vivaldi, Bach, Chopin, Grieg, Pachelbel, le Debussy, vous avez vu, qui est assez cristallin. Bon, c'est une musique de professeur, dirais-je pour finir. C'est-à-dire qui fait écouter aux étudiants de son campus autre chose que Aerosmith ou Guns N' Roses. C'est un Debussy à un usage pédagogique.
C'est la même chose avec ce Claude Debussy magnifique qu'a choisi Carole. Là, il ne s'agit pas du tout de pédagogie, mais il s'agit tout simplement du cœur, du génie de ce compositeur français sur lequel nous réfléchissons tous ensemble. Pour vous, La fille aux cheveux de lin, déjà le titre est magnifique. Héloïse Bellacone au piano, ça date de 2017 et Carole, évidemment, est avec nous. Ça vous ressemble d'ailleurs, ce Debussy, hein, mon cher Carole.
Ah, c'est gentil. Oui, c'est très bien joué par Héloïse Bellacone, qui est une jeune pianiste qui a enregistré tous les préludes dans un enregistrement qui est absolument merveilleux. Ici, c'est le 8e prélude du premier livre. C'est un Debussy plutôt simple, avec des harmonies assez simples, qui repose sur ce qu'on appelle un pentatonisme, qu'on peut trouver aussi dans un contexte très différent dans la musique chinoise telle qu'elle est imaginée et rêvée à l'époque. Et il y a quelque chose de très indolent, d'un peu serpentin dans ce début qui pourrait être confié à la flûte si ça n'était pas donné au piano mais dans une orchestration. Il y a quelque chose d'un peu badin. Alors tout ça va s'animer progressivement, mais c'est un Debussy qui a quelque chose de pré-raphaélite, qui se souvient un peu de son passé. Debussy a, comme une bonne partie de sa génération, été fasciné par un Moyen-Âge rêvé, passé par le prisme de son imagination, évidemment, et qu'on pourra retrouver aussi dans Péléas et Mélisande, qui est l'opéra qui est finalement créé en 1902, qui va lui assurer beaucoup de droits d'auteur, parce que c'est un succès. Ça fait partie de ces grands monuments de l'histoire de la musique qui ne sont pas des fours, mais qui sont d'emblée des succès. Et que l'on pourra entendre au Théâtre de l'Athénée prochainement.
Alors, je voudrais qu'on écoute, parce que ça existe, du Debussy, jouant Debussy. Il s'agit de Gollybrook's Cakewalk, extrait d'une suite qui s'appelle Children's Corner, qui est dédiée à sa fille. Claude Emma, le voici. Le voilà. Carole Doulet, poursuit cette conversation. Est-il vrai qu'avec la mère, il a renouvelé la forme symphonique, avec jeu, il a renouvelé le ballet, considéré comme prophétique et moderne, et avec Péléas et Mélisande, il est sorti justement du vacarme et du mélodrame de l'opéra. Est-ce que c'est... Parce que si ces trois ruptures-là sont aussi marquées pour des genres musicaux qui sont eux-mêmes aussi connotés, on est en face d'un personnage qui est absolument génial.
Samuel notait très justement que pour ce romantique et Söderberg, une musique romantique qui est celle du premier Debussy, attention, Debussy a été effectivement romantique, il est soumis à l'emprise wagnérienne, comme à peu près toute sa génération, mais ensuite il s'en détache et il va devenir effectivement patriote, même nationaliste en art, de façon extrêmement virulente, anti-germanique. Mmh. C'est en fait une réaction contre le pathos du romantisme. Il va y avoir dans Péléas et dans ses œuvres que vous citez, donc La Mère 1905, Jeu 1913, quelque chose comme une décision de ne plus se fondre nécessairement dans les cadres à la fois formels et dans l'harmonie du romantisme, mais essayer d'avoir quelque chose qui peut-être va retrouver par-delà les années un certain classicisme français. Je pense que ce que veut dire Barenboim dans l'extrait qu'on a entendu en début d'émission, et qui est très juste, c'est que ces deux pôles de l'art français, tel que Debussy aimait les définir, c'est à la fois effectivement un côté un peu intellectuel, et puis une emprise de la sensibilité, et cette synthèse entre les deux, qui serait le propre d'un art qu'il aimait lui-même par-dessus tout. Donc oui, il a été... assurément le grand compositeur français qui a permis à la musique française de s'ouvrir vers un autre monde.
Cet autre monde, c'est aussi celui du cinéma que nous évoquions tout à l'heure avec Samuel Blumenfeld. Voici Larry Clinton et son orchestre. Nous sommes en 1938, c'est My Reverie, c'est une version jazz de Reverie. Donc, et alors, c'est là que ça devient étonnant, parce que tout à l'heure, je citais évidemment tous les grands metteurs en scène qui l'ont utilisé. Là, c'est Scorsese, nous sommes en 1980, et qui pouvait croire qu'il y eut un rapprochement entre Raging Bull et Claude Debussy? Improbable, mais vrai. All love is a dream, but in my reverie, I can see that this love was meant to be. Only a poor fool, never schooled in the whirlpool of romance, could be so cruel as you are to me. Nous avons parlé de Robert De Niro, donc bien évidemment la semaine dernière dans Les Insubmersibles, et bien l'un de ses plus grands rôles, et donc cette bande originale, Samuel, c'est vrai que Scorsese, c'est plutôt un staccato de montage de musique de rock des années 60, 70, 80, et là, boum, Debussy. Que vient-il faire ici?
Ah, c'est une très bonne question, Guillaume. Debussy apparaît dans ce film consacré
à la boxe.
En théorie, à la boxe, mais un film sur la boxe qui ne ressemble rigoureusement à aucun film jamais réalisé sur la boxe. Donc ceci expliquerait cela, à mon avis. Or, je dirais, fixons-nous sur une image que nous connaissons tous, ou alors ceux qui ne la connaissent pas doivent la voir, doivent la découvrir dans la seconde. Repensons à l'incroyable générique du film de Raging Bull, où Robert De Niro, en capuchonné, sautille au ralenti sur un ring quasi mental. Raging Bull n'est pas, à mon sens, un film sur la boxe. D'ailleurs, la boxe n'a jamais intéressé Scorsese et il ne s'y est jamais intéressé après avoir réalisé l'un de ses chefs-d'œuvre. Et donc, Raging Bull, ce n'est pas un film sur le noble art. C'est Lecce Homo de Scorsese, au sens sacré du terme. C'est-à-dire qu'au cœur de ce film, touché par la grâce, il y a un sujet qui est loin d'être religieux. Et ce sujet, c'est la faible estime de soi et la violence dont certains hommes, dont Jacques Lamotta, dont ce champion du monde des poids moyens, dont Jacques Lamotta fait usage pour dissimuler cette violence et pour se punir lui-même. J'ai envie de vous dire qu'émouvoir et même élever spirituellement le spectateur avec une thématique pareille quand même, aussi austère, hein, ce n'est pas à la portée du premier cinéaste venu. Mais Martin Scorsese n'est pas le premier cinéaste venu.
Voilà pour cette bonne annonce.
Juste une chose, c'est que la chanteuse...
Mais je vous en prie, Marc Lambron.
La chanteuse Bea Wayne, elle est morte centenaire. Elle est morte en 2017. Elle avait arrêté de chanter, elle avait un show radio avec son mari. Et j'avais demandé à Scorsese pourquoi cette musique. Et il m'avait dit tout simplement... parce que c'était la musique de bonne enfance. Et elle a l'air en effet de sortir d'un poste à galène.
Nous nous retrouvons dans un instant à propos de cette émission Bande à part, qui est votre émission tous les dimanches à 19h, consacrée après Les Insubmersibles la semaine dernière, les grands personnages comme Bach, Verdi, De Niro ou Modiano qui produisent encore des chefs-d'œuvre absolus au-delà de 80 ans. Cette fois-ci, nous nous intéressons à Claude Debussy après Ravel. L'un des géants de la musique française, comme disait tout à l'heure Barenboim. Nous allons écouter donc le cher Jean-Louis Trintignant, puis Isabelle Huppert, et nous retrouverons le trio de Bill Evans. Nous retrouverons évidemment Claude Debussy, Sanson François, Carole Beffa lui-même, Péléas et Mélisandre, et tout à l'heure donc Josiane Savigno pour une biographie inédite.
Ce soir, à 20h, Nathalie Stutzmann dirige l'Orchestre de Paris et interprète l'une des symphonies les plus populaires de Beethoven, la Pastorale. Au programme également, le premier concerto pour violoncelle de Shostakovich, interprété par le jeune prodige Chekou Kalemesson. L'émotion des concerts, c'est sur Radio Classique. Philippe Jaroussky, Forgotten Arias, les perles oubliées du XVIIIe siècle. Philippe Jaroussky revient à ses premières amours, les compositeurs du baroque tardif. Forgotten Arias, Philippe Jaroussky avec Julien Chauvin et le concert de la Loge. Un album Erato, disponible dans toutes les FNAC.
Bonjour, c'est Franck Ferrand. Je vous donne rendez-vous lundi 6 novembre, comme d'habitude à la salle Gaveau, pour un voyage à quatre mains dans l'univers de Franz Schubert, en compagnie de deux virtuoses du piano, David Cadouche et Guillaume Bellhomme.
Schubert ou le génie romantique, avec Franck Ferrand, David Cadouche et Guillaume Bellhomme. Un concert Radio Classique le 6 novembre, salle Gaveau à Paris. Réservation au 01 49 53 05 07 ou sur sallegaveau.com. Christophe Rousset et les Talents Lyriques poursuivent leur traversée des opéras de Lully avec Thésée. Monstres terrifiants, danses merveilleuses, trahisons secrètes, Rousset révèle toute la virtuosité dramatique du compositeur favori de Louis XIV. Thésée par Christophe Rousset et les Talents Lyriques, un album aparté.
Jeanne, donatrice du fonds de dotation du Louvre.
Ma passion, c'est l'art et l'histoire. Alors, j'ai eu envie de transmettre mon patrimoine à une cause utile qui me tient à cœur, une institution fiable et solide. J'ai décidé de faire un legs au fonds de dotation du Louvre pour que les générations futures aient accès à ce musée qui compte tant pour moi.
Pour en savoir plus sur les legs au fonds de dotation du Louvre et les assurances vie, contactez-nous au 01 40 20 84 84 ou écrivez-nous à legs@louvre.fr.
Je pense que j'ai commencé assez mal et je n'ai cessé de progresser. Et je pense que les derniers films que j'ai faits, c'était sûrement ce que j'ai fait de mieux.
19h, 20h.
Comme les touches du piano noir et blanc, il y a toujours cette mathématique dans la composition des cadres, exactement comme une musique de Bach d'ailleurs.
Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
Voilà pour Jean-Louis Trintignant et donc Isabelle Huppert que vous venez d'écouter, qui sont les parrains de cette émission, pendant que les praticiens de cette émission parlent de Jean-Louis Trintignant. Vous vouliez dire, Samuel, dites votre petit mot rapidement et après nous allons enchaîner.
Jean-Louis Trintignant, parce que j'écoutais la musique, la musique de Wagner. Jean-Louis Trintignant aurait dû jouer dans Apocalypse Now et avait finalement dit non. C'est un rôle dont a hérité finalement Christian Marquand.
Ouais. Donc c'est le planteur français, c'est-à-dire que cette scène qui a été coupée au montage pendant des années
et rajoutée
et voilà.
Et Marquand joue aussi le commandant Kieffer, personnage historique dans Le Jour le plus long.
Claude Debussy. Donc nous arrivons à l'un des chefs-d'œuvre. Nous en avons évoqué quelques-uns. Prélude à l'après-midi d'un faune. C'est une version de Jacques Loussier. Vous savez, c'est ce pianiste français avec son trio qui s'est beaucoup intéressé, lui qui est entre le jazz et la musique classique, qui s'est beaucoup intéressé, par exemple, à Jean-Sébastien Bach. Le voici donc au clavier avec Debussy. L'occasion, en écoutant Jacques Loussier, de redire à quel point les pianistes français de jazz sont des pianistes magnifiques, notamment notre camarade Laurent Deville, dont vous appréciez l'émission sur l'antenne de Radio Classique. Autre point de vue, celui du chef d'orchestre roumain, Sergiu Celibidache, un personnage absolument phénoménal, pour qui la partition, justement, du prélude à l'après-midi d'un faune est tout simplement une perfection. Nous l'écoutons.
Si je regarde la partition de Debussy, je trouve... Il n'y a pas une note trop ou une note trop peu dans l'après-midi d'un faune. C'est pour ça que ça reste un miracle. Vous savez, nous n'avons non plus les mots pour pouvoir circonscrire les talents, les mérites des gens comme ça.
Sergiu Celibidache, donc quelques mots, mais des mots qui frappent et des mots que vous allez retenir. Bill Evans a été lui aussi un des grands pianistes de jazz américain, blanc, son trio interprète Blue in Rain, très inspiré par Debussy et Ravel tout au long de sa carrière. Marc Lambron va vous en parler dans un instant. Evans, donc, interprétant Debussy, inspiré aussi, je le disais, par Maurice Ravel. Un choix qui vous a plu, Marc?
Oui, parce que Debussy, on l'a entendu tout à l'heure, a été un des premiers à emprunter au jazz, avant Ravel et Stravinsky, même les genres, le ragtime, le cakewalk. Mm-hmm. Mais il a aussi influencé le jazz. Alors, Bill Evans, 1929-1980, avait eu pour partie une formation académique, donc il a intégré Debussy, Ravel, Fauré. Ce qu'on a entendu ici, c'est Blue and Green, c'est une composition de Bill Evans qu'il donne à Miles Davis pour son album Kind of Blue, en 1959, invention du jazz modal. Et l'année suivante, 1960, il le reprend avec son trio. Paul Motian était à la batterie, et le grand bassiste Scott Lafaro était à la basse, et malheureusement, il meurt en 61 dans un accident de voiture. Bon, le disque s'intitulait Portrait in Jazz. Alors, ce qui est très intéressant, et surtout au début du morceau, c'est que il y a des progressions harmoniques, il y a des modes qu'on pourrait dire debussistes. Il y a la revendication d'un impressionnisme musical chez Bill Evans, et surtout cette façon de mettre du silence entre les notes. Il y a presque une poétique de l'intervalle ou du son suspendu, c'est-à-dire que comme chez Debussy, la pause fait partie de la mélodie et le silence devient expressif. Et là, il y a un pont, je crois, entre Debussy et la musique pour piano de Debussy et ce que Bill Evans donne au jazz.
Cathy Crier, ou Cathy Crier, 2017, Carole Beffa, donc, a choisi ce Poisson d'or, ou plutôt ces Poissons d'or de Claude Debussy. Je donne quelques indications biographiques. Je disais tout à l'heure que Nadjeda von Meck, qui est cette femme richissime russe, avec ses enfants qui se promenaient en Europe et qui entretenait une correspondance avec notamment Tchaïkovski, ça nous permet de... Parce que Debussy l'a rejoint très jeune, hein, en sortant du conservatoire avant d'y retourner aux alentours de 17 ans et tous ses voyages. Et ça permet justement de mettre en perspective ces grands musiciens qui ont réalisé au fond la musique de la charnière du 19e et du 20e siècle. Tchaïkovski, donc l'ami de cette dame, c'est 1840-1893. Je le disais, Debussy, le plus jeune, c'est 62-1918. Après Ravel, la progression continue, notamment dans le domaine de l'organisation orchestrale 1875-1937. Et tout à l'heure, bien évidemment, on en parlera dans une prochaine émission, notre camarade Carole parlait de Stravinsky. Là, on fait encore un énorme bond en avant entre 1882, sa vie, et 1971.
Juste à vous,
une chose. En prie, mon cher.
Sur le rôle des femmes mécènes, c'est-à-dire que Madame von Meck, qui est la mécène de Tchaïkovski, puis de Debussy, va trouver un relais avec Winarita Singer, la princesse de Polignac, qui est capitale pour la musique française ou faite en France à partir des années 1910-1920.
Il y a ce rôle assez extraordinaire qui est évidemment tout à fait romanesque, qui est d'intégration finalement de musiciens jeunes qu'on va chercher dans les conservatoires et qu'on intègre à la vie de famille avec qui on voyage tout au long de l'année. Nous avons écouté donc il y a quelques instants grâce à Marc donc le trio magnifique qui était donc le trio de Bill Evans. Nous avons écouté les Poissons d'or et c'est à vous justement d'en dire quelques mots, Carole, avant que nous inventions une autre partition musicale liée au cinéma. Il s'agit de celle de la BO du film de Battre mon cœur s'est arrêté de Jacques Audiard. Mais revenons sur ces Poissons d'or.
Oui, ce que je trouve assez remarquable dans cette pièce, courte pièce, relativement courte, c'est cette façon qu'a Debussy de mêler mobilité et immobilité. C'est-à-dire qu'on a effectivement des coups de queue, des battements de nageoires, on a l'impression d'avoir affaire à des frémissements d'eau. Et pourtant, tout cela est dans un... Bah, probablement dans un bocal avec nos poissons. Alors, on peut aussi y voir quelque chose de purement technique. Hein. Ce sont des trilles, ce sont des arpèges lancés. Mais il y a tout cela chez lui, c'est-à-dire dans cet art si incroyable de l'évocation qu'a Debussy, qui n'est donc pas à proprement parler, le pittoresque. Debussy ne cherche pas à décrire, mais plutôt à suggérer, à évoquer. Il y a aussi ce côté toujours rhapsodique, cette liberté de ton, cette imagination. Et on retrouve tout ça d'ailleurs sous les doigts de Kate Krier. C'est assez normal que peut-être le plus grand des musiciens impressionnistes, si tant est qu'on puisse utiliser ce terme qu'il n'aimait pas beaucoup, va s'intéresser à tous les éléments, mais certainement plus à l'air et à l'eau qu'à la terre. Et l'élément liquide, avec reflet dans l'eau, les frémissements, là, cette façon qu'on peut avoir de suggérer, tout ce qu'il peut y avoir de d'impalpable, d'éphémère dans l'eau et dans l'élément marin ou liquide, ce sont certaines des caractéristiques de Debussy.
Et la petite suite en bateau qui est magnifique.
Et la petite suite dans bateau, c'est le premier Debussy, encore une fois, toujours marqué probablement par la musique française de son temps, Massenet, Chabrier et quelques autres, mais c'est effectivement admirable.
Voilà, tous les romanciers qui nous écoutent, tous les apprentis romanciers, puisque vous parliez tout à l'heure de la mer, se posent la question souvent quand on est au près de la Méditerranée ou au contraire au près de l'Atlantique ou du Pacifique, de se dire au fond comment j'écrirais ce bruit des vagues qui déferle, avec quels mots, avec quelle intensité, c'est d'une complexité extrême, mais Debussy a réglé le problème avec la musique. Je parlais, et alors là nous allons revenir en France, avec Jacques Audiard, de la manière dont la musique de Debussy a été utilisée. Voici donc « De battre mon cœur s'est arrêté », et c'est évidemment avec notre camarade Samuel que nous allons commenter. La sensibilité tout à l'heure de la mer via les poissons, le bocal. Là, il s'agit, Samuel, des pas sur la neige. Pensez que Jacques Audiard a demandé à une productrice de musique de lui suggérer justement un certain nombre de possibilités ou ce Debussy s'est imposé à lui?
Non seulement ce Debussy s'est imposé à lui, à mon sens, mais a structuré une partie de son film. De battre mon cœur s'est arrêté, c'est ce film au sujet ô combien singulier, sur un marchand de biens véreux, comme son père, qui veut devenir pianiste, comme sa mère. Vous savez, quand on nous explique que le héros romanesque se définit par un conflit intérieur, on peut vraiment constater que Jacques Audiard, lui, a trouvé le dilemme idéal, puisque nous nous trouvons avec un homme tiraillé entre la délinquance et son talent d'artiste. Ce qui me frappe et m'impressionne dans ce qui, je pense, est le meilleur film de Jacques Audiard, hein, c'est la manière dont Debussy ne sert pas à illustrer son film, mais véritablement à le structurer et à imprimer, en fait, sa dynamique. Debussy, en fait, donc, ce débat sur la neige, et se retrouve dans les quatre dernières minutes du film de Jacques Audiard, là où, en fait, le film impose sa clausule et tout son sens. Et lorsque la musique de Debussy apparaît, en fait, elle apparaît juste après que le personnage du marchand de biens véreux incarné par Romain Duris vient de tuer l'assassin de son père. Il vient de tuer l'assassin de son père de manière quand même assez particulière. Nous n'allons pas choquer les... mais bon, il a tué l'assassin de son père en lui écrasant les parties avec sa main. Donc véritablement, c'est ô combien violent. Et c'est là... que Debussy
le rêve
apparaît.
De l'art,
jamais Claude Debussy, voilà, mais jamais Claude Debussy, à mon sens, est apparu de manière aussi singulière après un événement aussi quand même aussi particulier.
Trivial.
Et donc Debussy apparaît.
Au moment où Romain Duris se dirige vers le théâtre des Champs-Élysées, où se produit son ancien professeur de piano devenu sa compagne. Romain Duris prend sa place dans la salle. Sa compagne est là, sur scène, et joue des pas sur la neige. Les mains, à ce moment-là, les mains de Romain Duris sont maculées de sang et se mettent à jouer Debussy de manière invisible. Soudain, en fait, c'est la dernière image du film, et soudain s'impose le sujet caché de débattre sur « Mon cœur s'est arrêté ». Ce sujet, c'est « Il y a toujours un prix à s'acquitter pour ne pas jouer Debussy ».
Et du sang sur de l'ivoire, après les pas sur la neige.
Chanson François rend hommage au don mélodique de Debussy après cette pirouette talentueuse de Marc Lambron. Écoutons le second pianiste.
Sans don mélodique, il n'y a pas de musique. Et c'est depuis d'ailleurs que je me suis créé ma Sainte Trinité à moi. Mozart, Chopin et Debussy. Ils sont pour moi justement tous les trois des génies mélodiques par définition. Parlant de Debussy, justement, je pense que c'est une grande injustice de penser que Debussy n'est qu'un harmoniste. Il est un grand harmoniste parce qu'il est avant tout un grand mélodiste.
Voilà ces quelques mots de Sanson François. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'au conservatoire, Debussy, justement, je parle sous le contrôle de Carole Beffa, semble-t-il, s'emmerdait vraiment au cours d'harmonie, qu'il essayait de zapper en considérant que le solfège était intéressant, le piano bien évidemment intéressant, bien qu'il jouât du piano avec rage, disent certains de ses contemporains, mais aussi cette autre version qui est donnée par Eric Satie, je cite, puisque Sanson François a parlé lui aussi de Chopin, Satie: personne n'a jamais joué Chopin comme ne l'a joué donc Claude Debussy. Voici des improvisations de Carole Beffa sur Poisson d'or, extrait de l'album de Beffa qui s'appelle Improvisation, qui date de 2016, mais que nous avons tous bien évidemment en tête, en tout cas les auditeurs de Radio Classique. Le voici, le voilà, le revoilà. Carole en train d'improviser presque dans le studio de Radio Classique sur Poisson d'or que nous avons écouté tout à l'heure, donc dans la version que donnait Cathy Crier. Ça vous a évidemment touché car ça vous ressemble.
Ah ben c'est gentil. Non, j'ai essayé de, à partir de ce thème qui m'a été donné par l'ingénieur du son en cabine lors de cet enregistrement, d'obtenir cet éclatement de la matière sonore qui est un peu le propre de Poisson d'or, quelque chose de très fragmentaire. Et puis, hors antenne, Marc Lambron, vous avez remarqué qu'il y avait quelque chose d'un peu sacre de Stravinsky là-dedans. Alors, je rappelais ce que Debussy, qui n'était pas avare de bons mots, avait dit du Sacre du Printemps, musique de sauvage avec tout le confort moderne. Il y a quelque chose, effectivement, souvent de martelé chez lui. Et il y a un Debussy sauvage...
Percussif,
ouais, presque. Il peut l'être, il l'est tout à fait dans certains des passages de la mer et ailleurs encore. Debussy, c'est tout ça. Et on peut comprendre qu'un compositeur aussi caméléon ait pu, à ce point, séduire les cinéastes.
Je rappelle que Ravel a laissé donc une centaine d'œuvres et que pour Debussy, il s'agit du chiffre de 227, mais que c'est le plus grand répertoire pour piano de la musique française avec Gabriel Fauré. Nous enchaînons sur Pénéas et Mélisandre, l'unique opéra de Claude Debussy qui a été photographié souvent par Nadar, d'où la possibilité de retrouver partout sur Internet des portraits. C'est chanté par Sabine de Vielle en 2017, voix exceptionnelle. Eléa, c'est Mélisande, donc elle avec la voix unique et exceptionnelle de Sabine Devielle. C'est ainsi que se termine la première partie de cette émission. Nous sommes donc tous des hommes avec des mains pleines de sang. À côté de touches en ivoire, c'est la métaphore de Marc Lambron qui aura marqué cette émission, bien qu'il s'agisse avec Debussy d'une musique impressionniste, mot qu'il récusait lui-même de la même manière que Édouard Manet récusait justement son appartenance à l'impressionnisme, mais les deux sont au cimetière de Passy, donc comme nous sommes à l'écoute de grands de Radio Classique, de grands mélancoliques, nous allons, place du Trocadéro, au cimetière de Passy, nous balader d'une certaine manière, joyeusement, en sortant par exemple de ce célèbre café qui s'appelle Carrette et se promener bien évidemment dans les allées pour découvrir des tombes de ceux qui ont révolutionné l'art français. La mer, Debussy, c'est dans un instant une version donnée par l'orchestre du Festival de Lucerne dirigé par Claudio Abbado. Vous allez auparavant écouter cette petite introduction de Marguerite Duras et entra en scène en majesté Josiane Savigno.
19h-20h.
L'enseignement majeur, c'est l'existence même de Proust. Que dans le monde moderne, une telle vocation ait existé.
Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
Voilà notre marraine pour cette dernière partie de la littérature, c'est Marguerite Duras, la mère de Debussy. Et Josiane intervient avec une biographie inédite sur donc Claude Debussy dont nous allons parler. Un mot pour vous dire qu'il s'agit de l'orchestre du Festival de Lucerne, dirigé par Claudio Abbado. Nous sommes interrogatifs au bord de la mer sur les mots que l'on pourrait mettre sur ce rythme qui est celui des vagues et de l'eau qui s'écoule. Eh bien, Josiane, vous avez lu pour nous une biographie inédite de Debussy. J'ai raconté à grands traits cette vie qui démarre à Saint-Germain-en-Laye et qui se termine en 1918 avec des voyages, avec une grande partie de sa vie au conservatoire, grande éducation musicale, même s'il ne fut pas toujours l'élève le plus assidu. En tout cas, il en est ressorti génial et donc son patrimoine est colossal. D'où vient cette biographie? Où vous l'avez trouvée?
Je vais vous le dire, mais d'abord, puisqu'on écoute la mer, je voudrais vous lire quelques phrases du Figaro de l'époque qui me plaisent beaucoup. Le public a fait un accueil mitigé, qu'on pourrait qualifier de surpris à la mère de M. Debussy. Il y a de quoi s'étonner. Pourquoi le public si docile aux duretés se montre-t-il moins empressé envers les musiques infiniment souples et délicates? C'est joli, non?
C'est magnifique.
Donc moi, avant qu'on fasse cette émission, je ne m'étais pas intéressée du tout à la vie de Claude Debussy. Alors, pas du tout. Je savais juste qu'il était mort en 1918, à un âge qui, pour nos critères actuels, n'est pas très vieux, c'est-à-dire 56 ans. Et je savais même pas qu'il s'appelait Achille Claude et qu'il n'était devenu Claude qu'en 1890. Alors, j'ai un peu regardé, j'ai vu qu'il y avait pas mal de livres sur Debussy, et qu'il y avait notamment aussi sa correspondance, publiée chez Gallimard en 2005, que j'ai très envie de lire, et puis un petit essai de 150 pages, mais de Philippe Cassard, qui est à la fois un exercice d'admiration, et aussi... une analyse d'un musicien par un musicien. Mmh. Et pourquoi j'ai pris la petite biographie de Ariane Charton ? Parce que cette collection de folio biographie, où il est marqué inédit, parce que ça veut dire que ça n'est pas la reprise d'un grand livre, que c'est directement en folio, ce sont en général, c'est très inégal. Il y en a des très mauvaises, il y en a des bonnes, mais c'est en général quelque chose qui, j'allais dire, compile un peu. Et donc là, il y a beaucoup d'allusions à la correspondance, beaucoup d'allusions à d'autres biographies, donc c'est assez riche, et c'est pas un petit livre, c'est quand même 350 pages, mais c'est pas cher, c'est en folio. Alors, vous l'avez dit, Debussy, il a passé assez de temps au conservatoire, il n'a pas réussi à avoir un grand prix, un premier prix. Il a eu quand même le prix de Rome. Alors, j'ai découvert à cette occasion qu'il était assez asocial, ça m'a beaucoup plu, et qu'il n'aimait pas les institutions. Et très content d'avoir le prix de Rome en 1884, mais en même temps, pas du tout content de passer 2 ans à la Villa Médicis. Trop enfermant, trop... Alors, moi, j'ai toujours vu cet homme, j'avais une image sans doute à cause de sa musique, comme un aristocrate. J'ai appris que c'est en effet l'image de lui qu'il voulait donner et qu'il n'avait jamais parlé de son enfance, qui était une enfance dans un milieu modeste, avec des parents pas tellement aimants. Et en fait, c'est seulement sa tante qui a considéré qu'il avait sans doute un attrait pour la musique et qui a commencé à lui faire donner des leçons de violon avec un très mauvais violoniste, avant le conservatoire, et qu'il se mette au piano. Alors, c'est une biographie assez chronologique, et donc on suit... Et moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est les allusions à la correspondance. Alors, par exemple, à la fin du siècle, à la fin du 19e siècle, ça va pas très bien pour lui. Il a à la fois une crise musicale et sentimentale, ça va pas bien. Il écrit « Mes heures sont plutôt vêtues de noir et c'est à désirer d'être nommé directeur d'un conservatoire quelque part dans l'île de Ceylan. » Quand on sait qu'il détestait les institutions, on voit dans quel état de déprime il était. Et puis, par rapport à toutes les missions, je crois qu'il y a quelque chose qu'il a dit à la fin du 19e siècle qui fait sens aujourd'hui, c'est « Je travaille à des choses qui ne seront comprises que par les petits-enfants du XXe siècle ». C'est assez juste, non ?
Mais je vous écoute religieusement.
Vous écoutez religieusement. Eh bien, et quelque chose qui va vous plaire, parce que parfois on est comme lui, peu de temps avant sa mort, il écrit à un de ses correspondants « Je suis bien là de lutter contre la réalité ». Et je voudrais finir par un entretien avec lui, et qui en dit long, en fait, sur comment il a envisagé sa vie artistique. Il faut s'efforcer d'être un grand artiste pour soi-même et non pour les autres. Je veux oser être moi-même et souffrir pour ma vérité. C'est pas mal comme déclaration, non ? Ça vous plaît pas ?
Absolument. J'ajouterais d'ailleurs une citation que j'ai utilisée de Debussy, qui pour moi résume, au fond, une des façons dont beaucoup de gens actuellement luttent contre l'influence de l'art dans la société. Pour beaucoup, la beauté est une insulte. Merci, ma chère Josiane.